Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro qui est là pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aux États-Unis, 20 millions de personnes s'adonnent au yoga. J'ai pas les chiffres exacts pour le Québec, mais avec tous les studios d'enseignement du yoga là, qui poussent un petit peu partout, autant ici à Montréal que partout en région, les applications sur le sujet aussi, les DVD, les livres, je pense que force est de constater que la pratique du yoga, c'est très prisé chez les Québécois. Et depuis quelques années, il y a une autre façon de célébrer le yoga, le festival Wanderlust, qui tiendra sa troisième édition du 20 au 23 août à Tremblant. Geneviève Guérard, ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens, professeure de yoga et porte-parole de ce festival, sera là en deuxième partie d'émission pour nous en parler davantage. Et puis, un rapport de Kino Québec intitulé « Les filles, c'est pas pareil » révélait que dès 6 ans, 80% des filles avaient l'impression de ne pas avoir les aptitudes motrices nécessaires pour faire du sport. Dès 6 ans, je le rappelle, ce qui permet d'affirmer que très tôt dans leur parcours, dans leur cheminement, les filles se sentent incompétentes pour faire du sport. Et bien sûr, tout ça, ça a un gros impact sur leur santé, autant à moyen qu'à long terme. Je pense que ça devient nécessaire d'y réfléchir, de trouver des solutions. Et dans cet ordre d'esprit, se tiendra du 9 au 12 juin, donc dès demain, la 4e conférence nationale Femmes et sport, et ce du côté de Québec. Une rencontre qui a comme objectif de rassembler différents intervenants du milieu, de favoriser des échanges aussi, tout ça pour résoudre ces grands enjeux-là. Et justement, on se met en mode solution avec Hélène Lauzon, directrice générale des Galactions. Hélène Lauzon, bonjour.
Oui, bonjour.
Beaucoup de fébrilité, j'imagine, à cette veille de cette 4e grande conférence nationale.
Oui, effectivement, là, ça fait presque un an là, qu'on travaille sur Conversation 2015, surtout notre présidente Guylaine Demers, donc mm-hmm. On a très hâte que ça commence.
Hélène Lauzon, au Canada, 96% des adolescentes n'atteignent pas le nombre minimal d'heures d'activité physique recommandée. Ce sont des chiffres, un pourcentage du moins qui est connu. Est-ce que c'est un petit peu ce qui a mené cette conversation 2015-là, cette préoccupation-là?
En fait, Conversation 2015, je vous dirais, c'est une suite logique de ce que Égal Action fait depuis 2001. Nous, notre organisme existe depuis 2001 et on fait suite nous-mêmes aux actions qui ont été entreprises il y a plus de 30 ans par l'Association canadienne de l'avancement des femmes en sport. Et pour Guylaine Demers, justement, c'était important de faire venir le Congrès national à Québec pour que Égal Action, entre autres, puisse apporter aux Québécoises et aussi aux intervenants québécois des pistes de solutions concrètes pour la problématique qui touche les filles dans le sport et les femmes également.
Est-ce qu'on le sait pourquoi les filles pratiquent vraiment beaucoup moins d'activités physiques, de sport que les garçons?
On a certaines pistes de solutions, les problématiques qui ont été identifiées au fil des années, qui touchent autant, par exemple, le manque d'habileté motrice, le manque de confiance en soi, d'estime de soi par rapport à la pratique d'activité sportive. Ça peut aussi aller du côté l'environnement, les encouragements des parents, la façon d'intervenir avec les filles qui concordent pas nécessairement avec ce qu'elles auraient besoin en termes sportifs. Ça touche aussi tout l'aspect programmation offerte, l'aspect financier, les montants disponibles autant pour les sports destinés aux filles que les sports destinés aux garçons, par exemple. Donc, il y a plusieurs aspects qui font que les filles participent pas, qu'ils sont autant individuels que dans l'environnement et dans ceux qui interviennent auprès des filles.
Oui, on se rend compte que la problématique est plutôt vaste lorsqu'on vous écoute, Hélène Lauzon. Et je me dis que peut-être que la façon d'aborder les filles pour les motiver à faire du sport et de l'activité physique n'est pas peut-être la même. C'est-à-dire que je lisais qu'ils sont peut-être un petit peu moins accrochés par la compétition, contrairement aux garçons, donc il faudrait les attirer d'une autre façon.
Il y a un facteur chez les filles qui est beaucoup plus présent que chez les garçons, c'est tout le facteur social relié à la pratique sportive. Mm-hmm. Donc, les filles aiment se retrouver entre elles quand elles font du sport et c'est souvent par là qu'on peut les accrocher pour qu'elles restent impliquées. Mais ceci étant dit, pour qu'elles restent impliquées, il faut que l'intervention soit de qualité et qu'elle soit bien faite auprès des filles, sinon ça garantira pas qu'elles vont rester impliquées. J'apporte une petite nuance, c'est qu'au niveau compétitif, il est faux de prétendre que les filles ne sont pas compétitives. Mm-hmm. Il faut simplement voir que il y a des filles qui sont très compétitives, il y en a d'autres qui n'ont pas appris à l'être et à apprécier la compétition, qui part de leur cheminement au niveau de leur éducation, par exemple, depuis qu'elles sont tout petites, et de leur éducation à travers le système scolaire. Donc, elles ne se sentent pas nécessairement bien en compétition parce qu'elles n'ont pas vraiment appris comment faire la compétition, oui, comment l'apprécier une fois qu'elles sont dans le sport comme tel.
Est-ce que l'un des problèmes est également qu'il n'y a pas de modèle, ben, il y en a de plus en plus, et par chance, mais peut-être d'ambassadrice au niveau du sport pour ces jeunes filles-là?
Il existe des modèles. On les voit aux 4 ans. Oui. Souvent, ce sont les athlètes olympiques qu'on voit le plus au niveau médiatique, mais il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus près des filles qu'on oublie souvent d'utiliser. Je pense, par exemple, à la mère. Je pense aux enseignantes qui sont près de ces jeunes filles-là, que ce soit des éducatrices physiques ou des enseignantes régulières. Même dans les CPE, les centres de petite enfance, les éducatrices ont un rôle important à jouer. Ce sont tous des modèles. On n'a pas besoin des athlètes olympiques pour être modèles. Ça aide énormément pour accrocher les jeunes filles de voir une femme qui a réussi dans son sport ou qui a réussi dans son implication. Ça peut être comme entraîneur officiel ou autrement que par la pratique. Mais ces modèles-là, on les néglige ou on oublie de bien les utiliser, je dirais. Oui. Et surtout qu'au niveau médiatique, c'est pratiquement absent au niveau de la présence médiatique des femmes. C'est à peu près 3% là, comparativement aux hommes dans les journaux, entre autres. Fait que, il y a un manque évident à ce niveau-là.
C'est intéressant ce que vous dites, Hélène Lauzon, parce que Conversation 2015, ça s'adresse bien sûr aux femmes et aux filles. En fait, on se penche sur la problématique de leur présence dans le sport, l'activité physique. Depuis tout à l'heure, on parle des filles. Et là, vous me dites, ben, un des modèles significatifs pour eux, ça peut être la mère. Donc, il faut s'intéresser aussi au rôle des femmes un petit peu plus mûres là, dans la pratique du sport.
Oui, ça part. Écoute, si la mère pratique une activité physique, on augmente de 22% les chances que sa fille en fasse également.
Oh, wow.
Donc, ça te donne quand même une indication du rôle important de ce premier modèle-là dans leur vie. Ensuite, qui se poursuit à l'école, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, il y a quelque chose à faire là. Et les femmes également, là, on parle des filles, mais les femmes également, il y a une problématique au niveau de la pratique qui est reliée à d'autres problématiques, par exemple, la famille qui arrive, le travail qui embarque, le temps qui diminue dans l'horaire pour du temps personnel. Ça joue énormément sur la pratique et de là, les modèles qui sont moins visibles à ce moment-là.
Mm-hmm. Et bien sûr, il y a des impacts sur la santé pour les femmes.
Oui. Des impacts importants. Il y a des études qui le prouvent au niveau cardiovasculaire, l'ostéoporose. Plus tard dans la vie, on les voit pas nécessairement quand les filles sont jeunes ou adolescentes. Et c'est dur. C'est pas un argument de poids quand on veut faire bouger une jeune fille ou une petite fille de lui dire que ça va être bon pour elle plus tard pour sa santé. Ça lui dit rien, c'est trop loin. Donc, mais ils sont là, ces facteurs-là. Nous, on les sait, les adultes qui entourent les filles, on le sait. Donc, sans nécessairement utiliser ça comme argument, il faut trouver un moyen de les amener à pratiquer. Et ces moyens-là, c'est passer par d'autres façons de faire, par exemple par le plaisir, tout simplement de bouger ou d'avoir des occasions de se rassembler avec leurs copines.
Et aussi, j'imagine, Hélène Lauzon, de tenter détabouiser, c'est-à-dire d'éliminer les préjugés autour de la pratique du sport chez les jeunes filles, parce que souvent, bon, je lisais tout à l'heure que c'est à partir de 6 ans, mais souvent, on observe que c'est à partir de la puberté, le corps change et les jeunes filles ont peur du jugement des autres.
Oui, et tu l'as bien mentionné, il y a déjà une baisse. Avant, on parlait autour de 12 ans, là, du passage du primaire au secondaire, qu'il y avait un changement majeur au niveau de la pratique. Malheureusement, maintenant, on le remarque au troisième cycle du primaire, donc dès la cinquième année. C'est tout le changement hormonal et entre en ligne de compte. Mais tout le facteur que je parlais tantôt, l'estime de soi, la confiance en soi et le jugement et par rapport aux garçons en lien avec ça, vient jouer un rôle assez important. Et comment on peut faire sentir la fille bien dans sa pratique sans qu'elle s'attarde tout le temps à son image? Premièrement, à quoi elle aime pas ça être en sueur, dépeignée, décoiffée, démaquillée. Comment on peut l'amener à utiliser le sport comme quelque chose qui est positif pour elle, sans négliger cet aspect-là de l'image personnelle qui est très importante pour elle au niveau de l'adolescence.
Oui, et ça, ben on passe pas à côté, hein, malheureusement.
Non, c'est un choix. Souvent, la pratique, c'est le choix entre ce que mes amis vont dire ou est-ce que je continue à faire la pratique. Mm-hmm. Et c'est souvent là la ligne qui est pas très large, c'est facile de passer de actif à inactif. Mm-hmm. Et non pas facile de passer de inactif à actif.
Ouais. Hélène Lauzon, dans le cadre de cette conversation 2015, Femmes et sport, et je le rappelle, du 9 au 12 juin, je pense que votre visée, c'est d'émettre, en tout cas du moins, de commencer à émettre des solutions, des stratégies. Est-ce que vous en avez quelques stratégies à nous proposer aujourd'hui? Si, par exemple, des parents nous écoutent et qu'ils sont préoccupés par la pratique d'activité physique pour leurs filles.
Oui, il y a quelques... C'est pas des trucs, c'est des pistes de solutions qu'on pourrait proposer aux parents, par exemple. Il faut qu'ils appuient leurs filles dans la participation, au même titre qu'ils appuieraient leur fils, par exemple, en lui achetant, ça peut sembler bizarre de dire ça, mais en lui achetant de l'équipement de qualité, non pas essayer de lui refiler de l'équipement usagé, en assistant régulièrement à ses matchs, ses parties, en s'impliquant bénévolement, par exemple, ou en prenant des photos de sa fille active et en les faisant encadrer, puis en être fière de la montrer à la famille, de voir ce que votre fille fait. Évidemment, en donnant l'exemple, plus les parents sont actifs, plus ça va aider les filles à s'impliquer également physiquement. Et surtout, ne pas miner leur confiance, leur estime d'elles-mêmes, ne pas juger en parlant de leur apparence physique, par exemple, et de la minceur à tout prix, là, qu'on entend régulièrement. J'entrerai pas dans cette ligne-là au niveau des modèles qu'on nous présente. Mais le parent doit encourager sa fille tout simplement pour ce qu'elle est et ce qu'elle désire faire également.
Oui. Mais justement, dans le rôle de ces modèles-là que l'on nous présente, quel est le rôle des médias en ce sens?
Le rôle des médias?
Oui.
Il y a des batailles qui sont faites présentement pour que l'image des mannequins qu'on présente jour après jour, que ce soit dans les médias écrits, la télévision et autres, change. Il y a des petites réussites, je crois, mais il y a un rôle évident des médias pour qu'ils comprennent d'emboîter peut-être le pas vers ces changements-là, des modèles qu'on nous présente, et surtout d'en montrer. Là, présentement, on n'est même pas à cette étape-là. On est à l'étape de montrer des modèles féminins. À 3%, on n'est même pas prêt là, de ce qu'on devrait faire. Et ensuite, nous présenter des modèles significatifs pour les filles. Et non pas seulement des modèles d'atteinte au maximum. Il y a des, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des modèles qu'on peut très bien utiliser dans la vie de tous les jours.
Mm-hmm. Hélène Lauzon, Chantal Petitclerc sera présente au cours de cette conversation 2015. Elle qui est, et je le sais, un grand, grand modèle pour les femmes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, mais qui sont également très actives, point de vue sport et activité physique. Parce qu'on le sait, si... il y a un enjeu, là, femmes et sport, mais pour les femmes handicapées, c'est encore plus difficile.
Oui. Toute la notion d'accessibilité... en fait, est problématique. Et on parle d'accessibilité au sens large. Déjà, c'est difficile pour les filles et les femmes. Pour les femmes atteintes avec un handicap, c'est encore plus compliqué simplement de penser se rendre aux installations ou d'avoir accès rendu sur place aux installations. C'est une étape encore plus loin. Les intervenants ne sont pas nécessairement formés, malheureusement, mm-hmm. que ce soit dans les écoles ou les intervenants sportifs, à travailler avec les jeunes filles handicapées et comment optimiser leur temps de gymnase, leur temps de piscine, au même titre que les jeunes qui sont handicap, par exemple.
Oui. Et bien sûr, vous allez vous pencher également sur ces problématiques. Hélène Lauzon, la conversation 2015 débute demain. Quels sont vos espoirs en lien avec cet événement et après, comment ça pourra aider le grand public, les femmes et les filles ici au Québec?
Ben, en fait, moi, ce que j'espère, c'est que avec le modèle qu'on va leur présenter d'échange qui est tout à fait non orthodoxe, c'est pas un congrès qu'on s'assoit et on écoute et on repart. Mm-hmm. C'est un congrès où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, d'échange, de circulation d'idées, d'identification de problématiques. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin des 3 jours, on ait identifié certaines problématiques avec des pistes de solutions très précises sur lesquelles on va pouvoir s'attarder ensuite et résoudre au moins ces quelques problèmes-là qu'on va avoir identifiés avec les partenaires, que ce soit au Québec ou au Canada, de façon précise. On veut pas que ça demeure juste un congrès avec des idées et qu'ensuite tout le monde s'en retourne et il n'y a pas d'action qui va suivre auprès des partenaires. On veut vraiment aller vers le partenaire et dire, ben voici ce que les gens disent, voici les problèmes majeurs identifiés auxquels on doit s'attaquer et voici comment on peut le faire pour commencer.
Et d'ailleurs, vous allez vous pencher sur 8 thèmes principaux, participation, leadership, médias, l'homophobie également. C'est très présent, ça, dans le sport et l'activité physique chez les femmes?
Oui, mais on n'entend pas parler, c'est justement. Donc, il est temps d'ouvrir un petit peu les portes, ouvrir les œillères et de voir, c'est l'homophobie, oui, mais l'homophobie dans le sens comment les organismes, on peut les aider à comprendre le phénomène d'homophobie et comment ce n'est pas nécessairement, c'est pas du tout une nuisance pour le développement de leur organisme ou de leur sport et comment, pas se comporter, mais je vous dirais comment réagir à des situations qui se présentent au niveau de l'homophobie. Donc, c'est encore malheureusement tabou. On a justement un atelier qui s'appelle « Briser les tabous » et c'est pas pour rien. Mm-hmm. C'est qu'on en parle très peu, que ce soit du côté du sport féminin ou du sport masculin, encore bien moins, j'ai l'impression, là. Donc, c'est vraiment de voir quelles sont les problématiques et comment on peut aider les organismes à y faire face, tout simplement, et avoir les réponses à leurs problématiques.
Mm-hmm. Vous attendez plus de 400 participants. Les hommes sont bienvenus, j'imagine, Hélène Lauzon, quand même.
Oui. Non, c'est en fait, il y a beaucoup d'activités d'égalaction qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes parce qu'on travaille avec l'ensemble des intervenants décideurs qui interviennent auprès de cette clientèle-là. Le congrès, évidemment, est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, intervenants, décideurs, entraîneurs, officiels, tous ceux qui s'intéressent au sport au féminin.
Et il y a plusieurs partenaires dans cette belle organisation, dans ce bel événement, l'Université Laval, Égal Action, bien sûr, Québec en forme. Donc, on vous souhaite de belles discussions, Hélène Lauzon. Et bien sûr, on suivra les résultats de cette conversation 2015, Femmes et sport. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Égal Action. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Geneviève Guérin, bonjour. Vous allez prendre une gorgée d'eau, allez-y.
Parce que bonjour, bonjour. Merci, quelle générosité. Je suis avec vous dans deux minutes.
Deux minutes? Geneviève, on vous connaît d'abord et peut-être principalement comme l'ex-première danseuse des grands ballets canadiens, mais pourtant vous pratiquez le yoga depuis un peu plus de 10 ans, je pense, près de 10 ans?
Près de 10 ans, oui. J'ai commencé en 2006. En fait, j'ai arrêté de danser en 2006. Mm-hmm. Du jour au lendemain. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment un... Moi, j'ai toujours pensé que j'étais une artiste avant tout, mais j'ai réalisé que j'étais aussi une athlète. Là. Ouais. C'était 40 heures de danse semaine. Et quand j'ai arrêté de danser, j'ai commencé à faire de la télé à temps plein. Et donc, ce qu'on fait à la télé, c'est souvent d'étudier des dossiers assis à une chaise toute la journée. Et je suis devenue rapidement très malheureuse.
Anxieuse même.
Anxieuse, pas trop savoir pourquoi, mais j'avais plus du tout de dépenses d'adrénaline comme je vivais au quotidien. Je suis pas une fille qui aime le gym, donc j'allais pas au gym nécessairement. Danser, j'avais plus le goût. J'avais vraiment arrêté de danser parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et donc, il y a une amie qui m'a amenée dans un cours de yoga et rapidement, je me suis sentie comme à la maison parce que c'est un studio, puis on est habillé en mou, puis on est nu-pied. En même temps, il y a une immense discipline ouais. par rapport au yoga que je retrouvais, tu sais, c'est similaire en danse aussi, mais c'était quelque chose de complètement différent parce qu'il n'y a aucune compétition. C'est mm-hmm. pas là, du tout le même esprit, là. C'est vraiment, on est sur notre tapis, puis c'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Il n'y a rien à... On ne regarde même pas les autres autour, là. Donc, ça a été une bouffée d'air frais dans ma vie quand ça s'est arrivé et j'en suis devenue accro. Finalement, ça a été ça qui est devenu ma discipline à moi. Et voilà, donc à peu près depuis 2006.
Ça a calmé votre anxiété?
Beaucoup. Ça a un effet... en fait, ça a fait beaucoup plus que ça. Mais je pourrais dire d'entrée de jeu que oui. Et souvent, les gens nous le disent, là, tu sais, je suis tellement stressée dans ma vie, j'avais besoin de mon cours de yoga, puis là, on le sent. T'sais, rapidement, c'est vraiment un effet instantané. Je dirais que c'est le premier. Parce que oui, il y a une dépense énergétique, mais il y a aussi une concentration sur le souffle, puis c'est un cours vraiment guidé, ça permet de prendre une pause de ce qui se passe sans arrêt dans la tête. Là, t'sais, on se lève le matin, puis déjà, on est au bureau.
T'sais. Le hamster? Même,
exactement. Le hamster qui roule, on apprend à le discipliner un peu plus. Et fait que oui, il baisse l'anxiété, ma joie de vivre qui a monté. Je suis devenue une blonde pas mal plus fun, une mère pas mal plus présente. C'est ça. Écoute, ça a été... Il y a eu plein d'avantages à faire du yoga. C'est pourquoi j'ai eu envie de faire mon cours de prof de yoga, parce que... Oui. Voilà. Je sentais que comme danseuse, j'avais une compréhension du mouvement qui était assez prononcée. Je sentais que j'avais quelque chose à partager. Et en plus, ben, c'était tellement naturel pour moi comme cheminement de faire mon cours de prof. Et bon, à travers ça, ben, est venu le studio éventuellement. J'ai rencontré mon associé, Éric Giasson, qui, lui, a un parcours assez particulier. On s'est rencontrés quand on a fait les deux notre cours de prof de yoga, mais lui, il vient du monde des affaires.
Oui.
Il était
Wall Street à New York. Là.
New York. Oui, oui. Un gars pas mal intense, là, qui faisait des Ironman, puis il a fait 4 compétitions d'Ironman, puis il travaillait fort, puis il gérait des gros portefeuilles. Et en 2008, quand il y a eu le crash, il a perdu son emploi. Et en même temps, il a, comme il dit lui-même, il fait des conférences aujourd'hui pour parler de son histoire, mais il a comme perdu son rôle social. Parce que là, t'es qui quand t'es plus le gars qui se paye des Ferrari puis qui, tu sais, un high roller, si on veut. Alors, lui, puis son médecin lui a dit, peut-être tu devrais arrêter de faire des entraînements intenses de Ironman et te tourner vers le yoga un peu. Et donc, il a commencé à faire du yoga et là, il a vraiment découvert qui était en dessous de tous ces rôles-là. Et donc, le yoga est devenu pour lui une passion aussi. Bref, on s'est rencontrés. On avait eu l'idée d'ouvrir un studio ensemble. Et lui, il revenait de New York et il disait, j'ai rencontré à New York les gens qui ont fondé les festivals Wanderlust. Oui. Il était vraiment emballé par ça. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas à Montréal, du yoga avec de la musique. Et les festivals Wanderlust, qui sont en soi des festivals, ont ouvert aussi des studios dans différentes villes. Il y en a un à Austin, il y en a un à Montréal, il y en a un autre, je ne suis pas certaine où, il y a un troisième, mais c'est des studios qui ont la même saveur que les festivals, mais pignon sur rue. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, on a ça, nous, la musique avec le yoga, et c'est ça. Parce que les festivals, c'est le mariage entre musique, yoga.
Saine alimentation, nature, c'est également.
Exactement. C'est comme de réunir des gens qui ont à cœur le bien-être d'eux-mêmes et de la planète, à l'intérieur d'un cadre vraiment joyeux, dans la nature. Les festivals se font toujours dans des stations de ski, donc à Whistler, à Tremblant. Moi, je m'en vais aussi à celui de la Californie cet été, au lac Tahoe. Donc, c'est un 4 jours intense où ils réunissent les meilleurs profs de yoga des sommités un peu internationales. Là, t'sais, il y a des vedettes dans le yoga avec les profs locaux. Donc, des gens, des bons profs locaux. Et donc, c'est un 4 jours où on a un menu de cours de yoga.
Des conférences
sur l'alimentation, des cours sur la méditation, du jogging, des randonnées en nature, un milliard de choses.
Et c'est, je pense, l'événement est également conçu pour les familles. De toute façon, le yoga, c'est pour tout le monde, Geneviève Guérin.
Absolument. Le yoga, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les gens souples. vraiment pas. Même que si vous n'êtes pas souple, c'est peut-être encore plus pour vous. Mais oui, les festivals, c'est conçu pour les familles. Il y a des trucs pour les enfants. Il y a des chums qui viennent, qui accompagnent leur blonde, mais qui ne font pas de yoga, mais ils font des randonnées en nature ou ils font du jogging en nature ou il y a plein de trucs qui peuvent les intéresser. Mais il y a aussi des cours de yoga pour débutants. Il y a des cours de yoga seulement pour les gars. Tu sais, c'est bien décrit dans le menu. Quand on arrive au festival, on a un menu, on peut réserver ses cours d'avance et donc, c'est souvent décrit. Moi, j'ai fait un cours de yoga l'an dernier, c'était que sur la musique des Beastie Boys. C'est assez vaste comme offre quand même de cours de yoga. Il y en a qui s'appelaient pour hommes seulement, tu sais. Donc, il y a vraiment un menu vaste. Il y a du yoga sur planche de surf, mais c'est l'endroit idéal où
pour découvrir la forme qui nous convient aussi.
Ce qui nous convient, c'est l'endroit où tous les bons profs sont réunis un week-end et où tous les gens qui l'apprécient aussi sont réunis. Alors, pour explorer, là, c'est vraiment l'endroit idéal.
Ça se passe du 20 au 23 août à Tremblant, le festival Wanderlust. Vous pouvez aller bien sûr sur le site wanderlustyoga.com. Ça, je pense que c'est l'adresse de votre studio, Geneviève Guérard. Wanderlust Festival aussi, pour en savoir davantage. Très rapidement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui veulent s'initier au yoga très rapidement?
Le yoga, ça peut être simplement de marcher dans le bois. C'est une façon de calmer le hamster dans sa tête. Fait que vous pouvez faire un mouvement très simple ou prendre la série débutant chez nous au studio. Série débutant pour les gens qui n'en ont jamais fait.
Quelle belle invitation, Geneviève Guérard. Merci beaucoup de vous être déplacée ici en studio.
Merci. Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous, nous, demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.